Terra States. Terrorist networks. Terrorist states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique sur Divergence FM 93.9, votre magazine hebdomadaire sur les logiciels libres et la vie du libre plus généralement. Aujourd'hui, une émission consacrée à Solutions Linux 2011. Gilles Gouget dans le micro, Pascal Rullier n'est pas là puisqu'il l'était à Solutions Linux 2011. L'occasion pour lui de nous faire parvenir quelques sons extraits des interviews réalisées par IntelliNTV, la web TV apprenante, où on parlera notamment d'un débat sur l'open data avec Tanguy Morlier, cofondateur de Regard Citoyen, Benjamin Jean de l'association VVL ou Jean-Philippe Clément, chef de projet open data à la mairie de Paris. Et puis un débat aussi sur le web est-il libre avec Tristan Nito, président de Mozilla Europe, et Philippe Montargès, président de Alterweb. Et puis pour la revue de presse de l'April, on parlera de la SACEM et de la Nébuleuse et puis du 8e rapport de la commission de contrôle des sociétés de perception de droits d'auteur. Et puis on parlera du procès Apache Google, d'un article sur la propriété intellectuelle contre la biodiversité, de la journée internationale contre les DRM, c'était la semaine dernière, et puis open source versus logiciel propriétaire, aux origines de la cyberculture LSD et HTML, et oui. Et puis on parlera aussi de Loïc Dachary, compagnon du tour du monde du libre. Pour le reste, ce sera de la musique libre et puis les agendas du libre, qu'ils soient français, belge ou québécois, mais pour l'heure, ce sont bien les nouvelles du front qui vous attendent.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, c'est la revue de presse de l'April, emmenée par Luc Fievet et Manuel Charpentier.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 18 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui ?
On a 7 articles, alors un sur le droit d'auteur, un autre sur Apache, la fondation Apache, de la biodiversité, les DRM, le combat logiciel libre et logiciel propriétaire, une comparaison entre LSD et HTML, ça va être intéressant, et puis un article sur Loïc Dachary, l'égérie du libre.
Le fabuleux.
Donc pour commencer, droit d'auteur, alors c'est intéressant parce que c'est quechoisir.org qui a sorti un article sur le droit d'auteur, Bienvenue chez les Shadok, de Erwan Seznek. Donc vraiment édifiant et porté
ce
par
qu'on
un
peut
gros...
dire, c'est que ça charcle méchamment dans cet article. Donc il cite, alors c'est pas de l'invention, il cite un rapport édité par...
La Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. Et c'est le 8e rapport.
Quel talent. Voilà, donc un rapport qui fait très très mal, puisqu'il dit qu'en fait, toutes ces sociétés de répartition des droits sont déjà extrêmement nombreuses, il y a une multiplication monumentale.
Donc c'est genre la SACEM, SPRD, des trucs dans ce genre. Hein,
voilà, il explique qu'on est passé de 3 sociétés au début des années 2000, je crois, à 28 maintenant, ou 29. Donc voilà, donc c'est une multiplication, et que chacune d'entre elles prélève une somme raisonnable, mais comme elles passent une bonne partie du temps à s'échanger de l'argent, chacune prélève sa dîme, et qu'au final, les artistes ne savent jamais combien ils payent.
Et si j'ai bien compris, une des demandes de ce rapport, c'est que, justement, les artistes aient un décompte de qui a prélevé quoi, à quelles étapes, et pourquoi, éventuellement.
Voilà, parce que leur estimation, eux, c'est de dire qu'il y a plus de 50% de l'argent qui disparaît en cours de route, et en fait que ce sont des systèmes qui sont devenus complètement autocentrés, c'est de la pure bureaucratie, c'est-à-dire que les systèmes qui ne se justifient que par leur propre existence, et qui ne sont au service ni des consommateurs, ni des artistes, bien au contraire. Et autre chiffre très intéressant, puisqu'on est dans une ambiance de crise, et où la musique, tout ça, plus comme avant, c'est fini. Il remarque que quand même il y a de plus en plus d'argent qui sont collectés, que la portion, la quantité d'argent collectée par ces, ces organismes est beaucoup plus importante que par le passé, et que du coup ça marche très fort, mais ça marche pas très fort pour tout le monde, mais en tout cas pour certaines personnes ça marche très fort, c'est ce que dit la fin de l'article.
Et effectivement, ils remettent aussi en question la déontologie de ces acteurs, et il y a un diagramme qui est particulièrement intéressant et édifiant en fin d'article, qui essaye de présenter toutes ces entités et les relations. Alors je suppose que c'est les pourcentages qui sont prélevés d'une association à l'autre, hein, d'une de ces fondations.
On a des petits cercles avec des flèches qui partent dans tous les sens. Quand ça, on a vu le diagramme, on n'a rien compris, si ce n'est que c'est un sacré bordel. Et donc ils disent quand même que non. Tous ces organismes sont des organismes donc, qui financent notamment la création, qui vont aussi subventionner des projets, et que les gens qui sont là derrière sont également artistes eux-mêmes, et qui n'hésitent pas à se financer leurs propres projets. Et voilà, ils disaient que c'était quand même pas terrible comme panorama, mais en tout cas, bon, c'est un point de vue intéressant quand on connaît le poids de ces gens-là avec l'appui du ministère de la culture.
Qui chapote.
Je cherchais le mot. Et voilà qui chapeaute tout ça, et donc on voit que c'est quand même un gros panier de crabes, et c'est eux qui nous sortent des lois Adopi en allant faire pleurer sur les artistes.
J'aime beaucoup le titre, le chapeau du dernier paragraphe, un système inamendable avec un point d'interrogation. Donc article suivant.
Donc article du Mag IT, la fondation Apache citée à comparaître dans le procès Oracle Google, un article de Cyril Chausson.
Et oui, la grande guerre entre les géants sur les brevets et le droit d'auteur fait rage.
Voilà, comme toujours, toutes les semaines, on a notre petite nouvelle sur le sujet. Donc là, c'est pour rappeler un petit peu le contexte, c'est Oracle qui attaque Google en justice sur des histoires de Java, puisque en fait, Oracle a récupéré en rachetant Sun tous les droits sur Java, et il y avait ce fameux test, c'est ça,
un test pour... Le compatibility kit, le test ORATCK, je ne sais plus ce que ça veut dire.
Bon, voilà, un test qu'il faut passer pour avoir le label, comme quoi c'est du vrai bon gros Java. Et Oracle, même si Java est ouvert, se servait du contrôle de ce truc-là pour faire entrer qui voulait. Donc là-dessus, Google avait créé son propre clone de Java.
Et qui Oracle, ne s'appelle pas Java, hein, c'est l'Alvic, ouais. Et qui est utilisé dans Android, donc le truc majeur du moment.
Et qui fait beaucoup d'argent. Et Oracle donc attaque Google en disant « Mais en fait, vous nous avez tout pompé, vous avez recopié des trucs que vous n'avez pas le droit de copier. » Et donc leur fait un procès, et dans ce cadre-là, ils citent à comparaître la fondation Apache. Donc Apache, c'est les systèmes d'exploitation de serveurs.
Les logiciels serveurs.
Clairement. Je crois que tu m'as déjà repris là-dessus, donc je n'apprends pas. Et qui avait fait le choix de rouler avec Google, si vous me souvenez.
Oui, de travailler. Ouais. Bah, en fait, ils travaillent, ils font des classes, et tout un système de librairie pour Java ou équivalent. Et qu'ils ont repris pour Android, enfin Google a repris. Et effectivement, Oracle les embête et leur demande toute la documentation et les documents et les fichiers qui ont pu leur passer entre les mains, et qui touchent de près ou de loin à tout ça. Alors ce que disent certains, c'est que ce sont des documents qui sont déjà connus, car Apache ne travaille pas dans l'obscurité. Ils font du logiciel libre et ils font tout ce qu'ils font de manière ouverte. Mais bon, ça n'empêche, ils vont se retrouver au tribunal, d'un côté comme de l'autre, ça tape.
Alors ils ne sont pas attaqués, mais en tout cas ils doivent... mettre les choses sur la table.
C'est presque marrant, mais bon, les guerres mondiales comme ça, c'est moche, il y a toujours des risques. Alors petit détail, qui n'est pas si petit que ça, il y a un article zendenet.fr, après OpenOffice, Oracle change d'approche sur le projet Hudson, donc c'est juste pour noter que Oracle perd de plus en plus de billes dans les projets qu'ils ont récupérés Hudson, et donc là il y en a un qui s'appelait Hudson, un outil de build permanent, enfin en continu, très bien, et la communauté s'est barrée, et là Oracle a pris acte et a décidé généreusement de reverser le projet à la fondation Eclipse. Donc c'est juste qu'ils perdent des choses, il n'y a pas 36
Une fois qu'on n'a plus la communauté, c'est peut-être beaucoup moins rentable à maintenir.
Ah là, je crois qu'ils s'en rendent compte. Hein. Donc, article suivant.
Donc, c'est durable.info, la propriété intellectuelle contre la biodiversité, un ouvrage collectif sur la géopolitique et la diversité biologique, un article de la rédaction. Alors là, Manu, je ne comprends pas, ça ne parle absolument pas de logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est un scandale.
Ah, ça fait référence, mais de manière assez vague, et au démarrage, en fait, c'est en comparaison, c'est pour parler de la biodiversité, et ils font le rapport sur la transmission de l'information et la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle peut tuer la biodiversité, donc c'est un livre qui prend sujet à bras-le-corps, et qui paraît de plus intéressant.
Voilà, alors c'est effectivement toujours intéressant de voir ce qui se passe sur les autres fronts de la propriété intellectuelle. C'est une chose qui a été pointé du doigt il y a fort longtemps par il y a quelques années par certaines personnes en disant bah voilà, on avait plusieurs fronts sur la propriété intellectuelle, le logiciel en est une avec les brevets logiciels, l'autre c'est la biodiversité, la brevetabilité du vivant, ce genre de choses. Donc c'est toujours très intéressant de garder un œil là-dessus pour voir les proximités dans les démarches et essayer d'avoir une vue d'ensemble contre ce fléau.
Oui, l'article paraît intéressant comme entrée en matière, hein, parle de biopiraterie par exemple, ce qui m'amuse beaucoup, et la comparaison entre les pays du Sud et les pays du Nord, hein, je pense que c'est des sujets à creuser.
Alors, article suivant, donc article de Numérama, la journée internationale contre les DRM, c'est aujourd'hui, par Julien L. Alors donc, c'était la semaine dernière.
Et oui, le mercredi 4 mai.
Voilà, tu t'en souviendras maintenant.
Oui, je vais essayer.
Voilà. Alors bon, bah l'article revient sur ce que c'est qu'un DRM. On va pas s'étendre sur le sujet. Il nous cite, hein, l'April, donc ça fait toujours plaisir. Merci Numérama. Et ils reviennent aussi, et c'est toujours assez édifiant, sur DATSI, donc la loi qui avait été votée en 2006, qui instaurait les DRM comme étant quelque chose d'absolument incontournable et super important, etc. Et donc cette fabuleuse loi qu'on était quelques-uns à avoir combattue à l'époque. Et donc voilà, donc il faut remarquer que les décrets d'application de cette loi ne sont toujours pas passés et qu'en gros ça a été branle-bas de combat et des tas de trucs hyper compliqués et de guerre totale. C'est une sorte de pré-adopie pour ne pas mettre la loi en application de toute façon.
Donc c'est terrible, mais bon, vive cette journée-là, on espère qu'on la refera pas trop, mais bon, c'est mal barré. Donc ensuite, le Nouvel Économiste, open source versus logiciel propriétaire, par Alain Roux. Un long article, nouveleconomiste.fr, c'est un nouveau site hein, qui apparaît dans la WordPress. Donc toute une reprise, bon, rien de bien nouveau. Mais...
Bah, c'est une bonne synthèse, on en voit passer régulièrement. Et c'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a quelques années, on avait des trucs avec des tas d'approximations et on a vu ici quelques articles qui racontent un peu n'importe quoi. Là, c'est une vraie bonne synthèse côté ce qu'ils appellent eux open source, mais des fois ils utilisent logiciel libre dans l'article.
Oui, je pense que
et
oui.
Logiciel propriétaire, donc des tas de choses qu'on connaît, donc les gens qui connaissent bien le sujet n'apprendront pas grand chose, mais en tout cas c'est pas mal. Oui. Il y a quelques chiffres intéressants, notamment sur les parts logicielles, donc des choses qu'on n'a pas nécessairement en tête. Ils disent que sur le marché du logiciel en France, le logiciel libre c'est 5,7% du marché, et qu'en revanche il croît à.
De 20% à peu près voilà. Chaque année.
Donc ces dernières années c'était plutôt 30 et qu'ils attendent 20% dans les prochaines années, alors que le marché total du logiciel monte de 4%.
Ça peut intéresser voilà, pas mal de monde.
Ça prend de plus en plus d'ampleur.
Oui, et puis bon, là une bonne remarque hein, qu'on connaît déjà, le fait de mutualiser, ça aide pour les coûts de R&D, il n'y a rien de tel, et ça aide des grosses entreprises qui montent leur cloud par exemple en ce moment, à mettre en place des clouds en partant tout de suite avec une base de logiciels déjà installée qui est considérable et vraiment très bien.
Voilà, c'est la bonne chose intéressante, c'est qu'effectivement, il cite à la fin IBM qui dit que le logiciel libre, c'est pas intéressant, tout ce qui est important, c'est le cloud. Et il rappelle quand même qu'il faut quand même des logiciels pour faire du cloud et que ces logiciels peuvent être libres, effectivement, et qu'il y a quand même quelques précédents sur le sujet. Donc l'article est bien fait, voilà.
Non, allez voir, allez jeter un oeil. Petite parenthèse, Red Hat vient de sortir son propre cloud. Bon, je sais pas si on entend en parler dans le futur beaucoup, mais en tout cas, bon, c'est intéressant. Donc, l'avant-dernier article, amusant.
Donc, OVNI aux origines de la cyberculture, LSD HTML.
De Quentin Noirfalis. Ou Noirfalisé, peut-être.
La parole, incroyable. C'est à croire que tu as ton propre micro maintenant.
Et oui, c'est terrible. Donc là, c'est quelque chose qui remonte à loin.
Oui, alors c'est là encore un article qui prend du recul et qui voit les choses de loin. Alors, c'est pas un article historique pur et dur comme on aurait pu s'y attendre. Il va chercher des explications sur de la stratégie américaine.
De la géopolitique.
De la géopolitique. Mais c'est pas mal foutu. C'est quand même intéressant. Donc, il cite notamment la stratégie du containment qui était héritée de la Seconde Guerre mondiale contre le bloc soviétique. Et vous disiez que bon, il y a des gens qui sont des militaires, hein, qui parlent de stratégie militaire, enfin, et géopolitique, disent qu'il faut.
Il faut
dépasser ça et rentrer dans la. C'est des Américains, hein, dans la stratégie du sustainment, donc c'est-à-dire.
La durabilité.
La durabilité, voilà. Et qu'il faut investir dans l'éducation, l'innovation, ce genre de choses, et mettre moins d'argent dans les armes.
Ça, c'est un truc de fou, parce que c'est des militaires qui disent ça, quand même. Hein. Alors...
Bah, on sait qu'aux États-Unis, bon, y a un complexe militaro-industriel assez important. Hein. Kennedy en avait parlé 2-3 jours avant de se faire flinguer. et que ça a un poids considérable. La DARPA, qui est l'agence nationale américaine de financement de la recherche militaire, voilà, enfin, en gros, la recherche militaire aux États-Unis, c'est le budget de l'armée française, tout entier.
Ça fait mal.
Donc pour eux, c'est vraiment un moyen d'innovation considérable. Donc on comprend pourquoi des militaires se sont intéressés à ce sujet-là. Voilà, puis bon, ça revient un peu dans une démarche un petit peu historique sur le rôle de l'idéal de 68 fin des années 60.
Et c'est bien là le rapport avec le LSD, hein,
voilà,
c'est
tout à fait.
Effectivement, il y a chaque époque a ses particularités. Les années 70, le LSD, les années 90, l'informatique. Donc vraiment bien. On n'a pas le temps d'en parler plus. Allez le voir, c'est sur OVNI, voilà. Donc il n'y a que du bon.
Je crois que c'est le premier article d'une série, hein, il me semble qu'ils veulent en écrire plusieurs sur le sujet.
Eh ben
si j'ai bien tout suivi.
On retombera dessus, j'en doute pas. Donc, et pour finir ?
Pour finir, donc, Silicon Maniacs, Loïc Dachary, compagnie du tour du monde du libre, encore une série, la série Le Web mise à nu, numéro 9, donc un article de la rédaction.
Et donc, Loïc Dachary, c'est l'égérie du libre, hein,
voilà,
c'est son
membre d'honneur de l'April, donc un des pionniers du logiciel libre en France, quelqu'un qui est très discret, mais
qui agit beaucoup.
Voilà, qui agit beaucoup et qui discute est très très intéressant.
Président de la FSF France et grand connaisseur de toutes les personnalités du libre.
Voilà, et très très pointu sur les licences et ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui a un rapport à la. Voilà, qui s'exprime pas énormément parce qu'il est plus dans l'action et ce que lui il veut faire c'est coder et participer à des projets. Parce que selon lui, sinon on se retrouve juste à discuter, à faire de la polémique et tout ça, et finalement c'est pas très productif à son sens, donc on respecte
ce que j'approuve et ce que j'apprécie énormément, c'est ce qu'il a lancé il y a très très peu de temps, donc c'est tout neuf, hein. Vous l'entendrez peut-être pour la première fois ici, donc c'est la notion de compagnon du libre, le fait que justement vous pouvez prendre, enfin c'est lui, c'est ce qu'il fait, hein. Il s'est lancé, il fait du travail journalier, il prend un projet libre tous les jours et il va aider les gens sur ce logiciel libre, et à la fin de la journée il fait un rapport sur ce qu'il a fait ou pas réussi à faire pour essayer d'améliorer les choses. Il est journalier, donc il fait ça bénévolement. À côté de ça il travaille, hein. Heureusement il a d'autres journées qui sont consacrées à du logiciel libre, mais il est payé pour ça. Et là, ben, en fait, il lance quelque chose, c'est tout neuf, je sais pas si ça va donner lieu à tout un compagnonnage, mais en tout cas c'est vraiment cette idée là d'aller aider les autres volontairement et d'améliorer à chaque jour vaut bien sa peine.
Très bien, et ben Manu, merci, on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça?
Oui, bah à la semaine prochaine Luc, à la semaine prochaine Divergence.
Salut.
C'était donc la revue de presse de l'April proposée par Luc Fievet et Emmanuel Charpentier. Une revue de presse aussi indispensable qu'une pause musicale dans cette divergence numérique. Aujourd'hui, on se tourne vers le groupe Adapt, qui est signé chez le net label Miga, des musiques que l'on retrouve sur dogmasic.net. Et on écoute ce titre sous licence Creative Commons by NCSA 3.0. Ça veut dire que c'est une licence de libre diffusion. Pour l'utiliser, il suffit de citer l'auteur, de ne pas faire d'utilisation commerciale de son œuvre sans son accord et de partager et toute éventuelle reversion sous la même licence. Le morceau s'appelle Moon. Le groupe s'appelle Adapt, un morceau bien plutôt dub, bien senti, intitulé Moon. C'est sous licence Creative Commons by NCSA 3.0, extrait de l'album sorti chez le net label Miga, sous la référence Miga 42, Vamos a un lugar especial, musique électronique, plutôt électro-dub dirons-nous. À présent, eh bien, on revient à nos moutons, si j'ose dire, à savoir le salon Solutions Linux Open Source qui s'est tenu cette semaine à Paris, au CNIT. Retour d'ailleurs au CNIT pour ce salon qui avait entre-temps déménagé ailleurs, mais tout ceci n'est que détail. Pascal Rullier était présent à Solutions Linux et il en a profité pour récupérer quelques extraits des interviews réalisées par la Web TV apprenante spécialisée sur le libre IntelliNTV, avec notamment ce débat sur l'open data qui réunit Tanguy Morlier, cofondateur de l'initiative Regard Citoyen, Benjamin Jean de l'association VVL et Jean-Philippe Clément, chef de projet Open Data à la mairie de Paris, l'open data qui a le vent en poupe.
Alors, on a beaucoup parlé en 2010 de ces open data, ça a été un peu le mot-clé à la mode en 2010. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un petit peu un premier point où on en est réellement, au-delà des quelques applications un petit peu gadgets qu'on a pu voir, à quoi ça sert réellement aujourd'hui et où on en est de l'utilisation de ces données publiques? Qui peut...
Moi je peux bien commencer. Il se trouve que... D'un point de vue un peu historique, la France était un peu en retard. L'open data, on en a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, notamment en 2007, lorsque Obama est arrivé aux États-Unis, puisqu'il a lancé un portail open data. On suivi plusieurs pays, dont l'Angleterre, qui a fait sans doute le meilleur portail open data à ce jour. Et puis en France... Il y avait une commission qui s'était réunie sous l'égide de la PIE pour réfléchir là-dessus, et puis ça donnait pas grand-chose. Et il se trouve que depuis un an, il y a une accélération assez importante. Une ville un peu pionnière, enfin deux villes pionnières, Rennes d'abord, qui a essayé avec, comme c'était les premiers, quelques erreurs, et ils se sont améliorés au fil du temps. Et puis l'exemple de la ville de Paris, qui a lancé en janvier, il me semble, son portail Open Data. Et puis... À peu près le jour de l'ouverture du portail Open Data, un arrêté ministériel a nommé quelqu'un en charge du projet Etalab, qui est censé mettre à disposition des données publiques plus largement pour les citoyens et également pour les entreprises au niveau de l'État. Donc c'est Séverin Naudet qui en est en charge et qui devrait rendre public son travail à la fin de l'année 2011.
Alors la mairie de Paris, encensée par Tanguy comme pionnière, est-ce que c'est quoi ? C'est une volonté politique au départ d'aller vers l'ouverture des données ?
C'est une forte volonté politique effectivement de l'adjoint au maire en charge de l'innovation, hein, Jean-Louis Missica, qui a souhaité ouvrir les données publiques de la ville, qui avait suivi tout le mouvement aux États-Unis, en Angleterre, et qui savait que la ville disposait de données qui étaient entre guillemets assez facilement libérables, et donc on s'est mis sur ce travail-là sur un an. En fait, on a fait ce travail-là de libération.
Et c'est quoi ce message politique? Parce que c'est un peu complexe pour le citoyen. D'abord, il savait pas qu'il y avait toutes ces données, et puis il se demande bien ce qu'il peut en faire. Hein.
Alors, dans un premier temps, c'est vrai que c'est pas forcément tout de suite et directement un message ou un usage citoyen directement. C'est plutôt pour des réutilisateurs, donc des intermédiaires qui vont pouvoir améliorer leurs applications et qui de fait vont pouvoir améliorer aussi la vie numérique à Paris. Et puis dans un deuxième temps, un peu indirectement, le citoyen, l'habitant peut du coup utiliser ces données via des applications, via des services et via lui-même peut-être une mise en perspective des données qui lui sont fournies.
Alors aujourd'hui à Paris, on en est où? Qu'est-ce qui est disponible comme données et qu'est-ce qui éventuellement va l'être dans les mois qui viennent?
Alors on a beaucoup de données géographiques, hein, tout ce qui était en fait dans le système d'information géographique a été libéré. On espère que justement ça va améliorer beaucoup des services rendus dans la géolocalisation, dans l'accès aux différents services de la ville. Et puis là, un élément important, un vote au dernier dernier conseil de Paris sur la partie budgétaire de la ville. Donc on est en train de voir et de préparer un petit peu justement la libération des données budgétaires de la ville.
J'aime bien ce terme de libération à Paris. En plus, on a l'impression de se retrouver quelques dizaines d'années en arrière. Vous aviez vraiment cette impression que les données, elles étaient enfermées à l'intérieur des coffres-forts de la ville?
Elles n'étaient pas enfermées. Il y a un cadre réglementaire qui aujourd'hui oblige les collectivités très strictement à transmettre ces données-là quand elles sont demandées. Donc c'est le travail que faisaient les services très généralement et puis régulièrement. Simplement là, on a mis en place des procédures, des processus pour que ce travail-là soit fait sans la demande initiale en fait.
Oui. Donc, avant, on attendait que le citoyen demande l'accès aux données et là, on ne pouvait pas lui refuser. Là, on prépare et on livre à tout le monde.
Exactement.
D'accord. C'est un peu une révolution culturelle en fait, plus qu'une une révolution globale. Mais effectivement, ça change la relation que peuvent avoir les citoyens à leur administration. Et comme on l'a vu très brièvement, les données, il y a besoin de médiateurs pour ces données-là. Donc essayer de trouver le bon pacte, notamment juridique, mais également technique, pour que cette médiation se passe correctement, que l'administration ne se sente pas dépossédée de ces données. Et également qu'elle puisse enrichir ses connaissances, parce que à chaque fois, quand on a des millions de données unitaires, forcément il y a des petites erreurs, forcément il y a des petits éléments. Donc d'un point de vue des réutilisateurs, qu'ils soient citoyens ou entrepreneuriaux, il y a cette nouvelle culture qui est que les données sont à disposition, on n'a plus besoin de faire énormément de démarches pour pouvoir y accéder.
Vous abordez un sujet très intéressant, ça c'est la voie de retour. Lorsqu'il y a des erreurs éventuellement qui sont constatées, je ne suis pas sûr que les services aujourd'hui soient forcément très ouverts dans leur fonctionnement à aller écouter le citoyen qui va leur dire tiens là vous avez une erreur et je vous apporte la correction. Comment vous avez fait évoluer les mentalités ?
Au-delà du projet précis Open Data, c'est vrai que globalement c'est un projet qui permet une évolution culturelle, une ouverture de l'administration, des services vis-à-vis des réutilisateurs, vis-à-vis de ceux qui vont faire justement cette voie de retour. Et sur le site, on a voulu justement un peu multiplier ces voies de retour. On a beaucoup de commentaires sur les jeux de données, avec des commentaires d'ailleurs qui ont souvent été très pertinents au départ, parce que on s'essayait aussi dans les formats, on s'essayait, et donc souvent les commentaires ont été très pertinents. Et on essaie aussi d'animer une sorte de forum pour nous donner un peu de perspective sur les souhaits de la communauté en termes d'ouverture. On n'a pas tout ouvert d'un coup, on peut pas le faire, c'est énorme. Et donc du coup, on essaie de se faire un peu guider par la communauté sur les futures ouvertures.
Et les fonctionnaires municipaux là-dessus sont faits facilement à cette voie de retour
Ils y viennent au fur et à mesure. C'est comme tout processus de changement culturel, ça rentre au fur et à mesure dans leurs objectifs, dans leurs missions, dans leurs perspectives. On a souvent maintenant des agents qui nous disent tiens, ça on l'a fait pour nous finalement, on pourrait peut-être le libérer, ça a peut-être un intérêt. Là, dernièrement, on avait toute une discussion autour des arbres anciens à Paris, et donc il y a eu un réflexe, déjà un premier réflexe de l'administration et des services pour dire on a fait ce travail-là de recensement, du coup ça peut être réutilisé.
Alors, on va parler de l'aspect juridique parce que c'est un point très important, surtout que aujourd'hui dans notre monde, les données, c'est presque la chose qui a le plus de valeur. On le voit avec tous les problèmes de piratage, de fraude, etc. Et là, on est dans la démarche inverse d'ouverture des données. J'imagine que ça doit se faire dans un cadre juridique très précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Oui, c'est d'ailleurs aussi l'un des aspects sur lesquels la mairie de Paris était très bonne, c'est qu'elle a cherché à travailler d'égal à égal avec les communautés et avec les autres acteurs. Et pour pouvoir favoriser la contribution, pour la collaboration, il faut que chacun, qu'il n'y en ait pas un qui ait plus de droits que les autres. Là, en l'occurrence, la mairie de Paris, ayant investi dans d'énormes bases de données, elle avait principalement des droits sur les bases de données en question, le droit sui generis des bases de données, éventuellement des droits d'auteur. Et c'est la raison pour laquelle elle a choisi de mettre sur ses bases de données, d'associer à ses bases de données, une licence qui appréhende ses droits de propriété intellectuelle pour les partager. De façon à ce que chaque utilisateur, chaque communauté, chaque structure ou projet qui voudrait utiliser leur base de données puisse le faire sans craindre que la mairie de Paris un jour dise « Stop, j'arrête tout et maintenant je récupère mes bases de données ». Donc n'importe qui peut y contribuer, la licence le permet et là on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. L'un des autres choix intéressants de la mairie de Paris, c'était d'adopter une licence copyleft. C'est-à-dire une licence qui va imposer à la personne qui modifie la base de données, qui travaille à partir de la base de données fournie par la mairie de Paris qui la modifie, à contribuer ses propres modifications sous la même licence. Donc une logique de pot commun finalement qui bénéficie tant à la mairie de Paris qu'à la communauté et à tout autre acteur.
comment on vérifie dans ce cas-là la qualité? Parce que plus on a de contributeurs, plus on peut, prend peut-être le risque que des erreurs soient introduites volontairement ou involontairement.
Oui, alors l'un des intérêts aussi des licences libres, ou quelque chose qui est très, très fort dans les licences libres, c'est l'aspect paternité. On attribue à chaque contributeur ses propres modifications, de manière encore plus proéminente que dans une licence classique ou dans une collaboration classique. Là, vraiment, on va dire c'est un tel même individu, personne physique, qui a contribué à la base de données fournie par la mairie de Paris. Alors même qu'il peut y avoir une disproportion, on va dire, en termes d'importance entre la mairie de Paris, la contribution de la mairie de Paris et celle du contributeur lambda. Pour autant, on sera toujours capable de différencier ce que chacun a apporté et éventuellement de revenir à la version uniquement de la mairie de Paris si on le souhaite, ou la mairie de Paris plus contribution d'un tel, une telle.
Et là-dessus, on n'a rien inventé, hein. C'est le principe de l'open source, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que l'aide de la communauté, les échanges qu'on a eu avec la communauté au moment de décider de la licence, nous ont beaucoup aidé à sortir d'un modèle qui d'ailleurs c'est assez asymptomatique, c'est que cette licence qu'on utilise aujourd'hui, alors que le cadre réglementaire est assez contraignant, on est allé la chercher aux États-Unis et il a fallu la traduire, l'adapter au droit français parce qu'elle n'existait pas en France.
Alors, mais cette traçabilité qu'offre la licence est un vrai avantage aussi d'un point de vue open data, parce que à l'heure actuelle il y a des entreprises, essentiellement parce que ça coûte cher d'acquérir malheureusement pour l'instant des données publiques étatiques, les entreprises peuvent les modifier, la loi leur interdit de changer le sens, mais on n'a aucun moyen en tant que citoyen de vérifier si cette information a été modifiée et sous quel biais, puisqu'on n'a pas la source originale. Là, la ville de Paris met à disposition la source originale. Si Benjamin modifie les données, je suis capable de voir ces modifications et quel biais il a apporté dans ces données. Donc là encore, le libre, le copyleft, aide énormément aux citoyens à respecter la loi, puisqu'on n'a pas le droit de modifier, de changer le sens de données publiques selon la loi de 78.
Et là aussi, pour ajouter un peu sur les licences, ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche d'open data, c'est qu'on s'est servi d'un outil qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années, qui a été utilisé par énormément de personnes, donc les licences libres. Et on s'est dit, tiens, voilà quelque chose qui existe, on va essayer de le réutiliser pour d'autres projets qui ne sont plus des créations, qui ne sont plus des logiciels, dans un autre secteur. Ce qui apporte énormément d'avantages, mais ce qui demandait aussi un travail juridique sur les licences. Là, en l'occurrence, en plus, il fallait la traduire pour qu'on puisse expliquer aux Français qui ne sont pas forcément toujours de très bons, en tout cas qui n'apprécient pas de lire que des documents anglais.
Et pour être conforme aussi au droit français qui oblige à ce qu'une licence soit traduite en français.
Fait. Merci.
et même à expliquer, à traduire les effets attendus de la licence en termes de droit français et dans le contexte de la diffusion par la mairie de Paris, ce qui est un assez gros travail.
On a beaucoup parlé de la mairie de Paris. Jean-Louis Missika, en bon spécialiste des médias, a su médiatiser le sujet. Est-ce que l'open data, c'est un sujet de gauche? Où sont toutes les autres villes de France? Où est-ce qu'elles vont en matière de données publiques? Alors, les villes de gauche et les villes de droite, c'est vrai qu'on a l'impression qu'au-delà de la mairie de Paris, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Est-ce que vous avez des correspondants?
Oui, moi j'ai l'impression qu'après l'agilité de Rennes, qui a su être la première, le fait que Paris, une grande ville avec toutes ses pesanteurs estimées, parce qu'on a quand même réussi à sortir des choses jusqu'à présent,
voilà, Marseille, Bordeaux et Toulouse,
ça va arriver, ouais,
c'est en cours,
toutes ces collectivités là sont en train d'y réfléchir, on a des contacts, on essaye de s'aider, on essaye de donner les tuyaux qu'on a eu et les erreurs qu'on a faites au départ pour pas qu'ils les refassent, et puis voilà, on est ouvert aussi à cette contribution là.
Vous, votre fonction chef de projet Open Data, est-ce qu'il y a l'équivalent déjà dans d'autres grandes villes?
Je sais pas bien, en fait, je peux pas vous dire.
Vous n'avez pas encore créé une association?
Non, on n'a pas
encore
créé
chef de projet Open Data.
Non, pas encore.
Comment vous voyez l'évolution à travers les villes de France? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie tendance, une vraie volonté d'y aller?
Ouais, je pense qu'il y a vraiment une vraie tendance. En plus, c'est vraiment un partenariat un peu tripartite. Ça peut venir d'une volonté politique. À Regards Citoyens, on s'est intéressé à l'initiative parisienne parce qu'il y a eu une délibération en fin 2010. Je ne sais plus trop quand on s'est rencontrés la première fois. Enfin bref, en 2010 en tout cas.
En
2009. Donc voilà, là c'est la ville de Paris qui fait quelque chose. Nous, en tant que citoyens, on s'y intéresse et puis on vient les guider parce qu'on n'avait pas tout compris de la volonté politique. Et sans doute la ville de Paris n'avait pas tout compris non plus de ce que c'était que l'open data, la libre mise à disposition des données.
Donc
publiques.
Les autres villes, pour l'instant, elles attendent, elles regardent.
Non,
ce qui
justement, il y a. Comme un peu sur le fonctionnement de la ville de Paris, des villes qui sentent cette initiative politique ou des départements. Je crois que la Saône-et-Loire a fait une annonce récemment. Donc là, c'est une volonté politique. Il y a aidé, je crois, dans la Saône-et-Loire par des entrepreneurs. Il y a l'exemple nantais avec une association qui s'appelle Libertic, qui s'est montée il y a un an et demi et qui a fait des réunions autour de l'open data, fait une pétition qui a fonctionné très bien. Et le politique s'est dit, oula, il y a quelque chose à faire là. On va peut-être rater le coche. D'accord. Allons-y. Et d'accord. Donc là, c'est d'accord. les citoyens qui tirent et le politique
donc,
qui suit.
Il y a un vrai mouvement de fond.
Hein. Y a un vrai, donc à Toulouse, c'est la même chose, des citoyens. À Bordeaux, Montpellier, c'est plutôt une volonté politique à l'origine. D'accord. Et donc voilà, c'est et le projet national est à l'AB, où là, on ne peut pas dire que c'est la gauche est vraiment son mot à dire dans la réalisation de ce projet-là.
Et alors, une dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. On confond un petit peu données publiques et données ouvertes, parce qu'aujourd'hui, on a essentiellement des exemples de données publiques qui s'ouvrent. Est-ce que demain, ces open data vont... ce principe va s'ouvrir à l'entreprise? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont s'y intéresser? Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une grande entreprise ouvre ses données à l'extérieur, avec ses consommateurs? Je ne sais pas.
Alors, il y a déjà quelques exemples. Je pense à Google, qui a ouvert le corpus des mots qui sont dans son moteur de recherche. On a eu un exemple assez connu aussi d'Alta Vista, il me semble, qui a mis à disposition ses logs. C'était pas forcément une bonne idée parce qu'à l'intérieur il y avait des données personnelles. Et donc du coup, ils se sont expérimentés à ça il y a quelques années et ça n'a pas été le meilleur résultat. Donc il y a ponctuellement des initiatives privées. Ouais. L'open data n'est pas majoritaire pour les données publiques, alors que la loi normalement le prévoit, la loi de 78. Et dans l'entreprise, c'est pas le cas non plus, mais je pense que ça évolue un petit peu de concert.
Je pense aussi que c'est, d'une certaine manière, l'open data correspond à l'open innovation ou crowdsourcing pour le secteur du privé, où les sociétés cherchent à recherchent innovation en dehors de leur propre structure, ou eux-mêmes à intégrer une innovation extérieure. Donc là, on publie des informations, on publie des données pour que les gens puissent s'en saisir et nous aider dans un marché, capter un nouveau marché ou en tout cas créer de l'innovation.
On est encore très loin du moment où Total, Danone, la SNCF, même des sociétés de droit semi-public ouvriront largement leurs données.
Ça va venir effectivement avec le mouvement Open Innovation, c'est-à-dire effectivement d'arriver à travailler avec ces communautés de clients, de partenaires, et ils seront obligés dans ce cas-là de partager quelque chose avec eux et de construire aussi de la valeur pour eux-mêmes. Donc c'est un mouvement qui a priori va continuer même dans le privé.
Ce qu'on s'aperçoit avec l'open data, c'est qu'il y a une certaine rationalisation économique. En fait, ça coûte moins cher à la collectivité de mettre à disposition ces données en open data, donc librement accessibles, plutôt que de créer des barrières. Et donc cette réflexion-là, un certain nombre d'entreprises ont commencé aussi à y venir par simple rationalisation économique.
Ça, ce sera un bon axe en tout cas pour que les entreprises s'y intéressent.
C'était donc une interview réalisée par Intelli NTV lors du salon Solutions Linux Open Source 2011. On les remercie pour cela. Et les intervenants étaient Tanguy Morlier, cofondateur de Regard Citoyen, Benjamin Jean de l'association VVL et Jean-Philippe Clément, chef de projet Open Data à la mairie de Paris. Un autre débat sur le web est-il libre nous attend avec Tristan Nitto, président de la fondation Mozilla Europe, et Philippe Montargès, président de Alterweb. Mais auparavant, un petit peu de musique pour se reposer les méninges avec ce Jupiter in Dub, toujours le groupe Adapt, extrait du même album Vamos a un lugar especial, sorti chez le net label Miga, sous la référence Miga 42, toujours la même licence by NCSA 3.0 chez Creative Commons, et c'est un morceau de 4 minutes 23, et ça on s'en fout. Et non, ce n'est pas Saturne, mais Jupiter in Dub, interprété ici par Adapt, extrait de l'album Vamos a un lugar especial chez le label Miga, un net label sous la référence Miga 42. Une musique qu'on peut retrouver évidemment sur dogmazic.net / Miga, net label en l'occurrence, la plateforme indispensable à votre découverte des musiques en libre diffusion. À présent, la suite de ce qui a pu se passer sur IntelliN TV lors du salon Solutions Linux, avec ce débat sur la liberté du web. Le web est-il libre? Avec comme intervenant Tristan Nitto, président de la fondation Mozilla Europe, et Philippe Montargès, président de Alterweb.
Le web est-il libre? Tristan, j'avais dit que je ne poserais pas cette question-là, mais le web est-il encore libre? D'ailleurs, l'a-t-il toujours été?
Tout dépend de ce qu'on appelle libre. Dans une certaine mesure, il est ouvert, il est basé sur des spécifications qui sont ouvertes. Sur Internet, c'est les RFC. Sur le web, ça va être les spécifications du W3C. Elles sont ouvertes. Tout le monde peut les utiliser sans avoir à payer de droits dessus. Tout le monde peut faire une implémentation. Tout ça, c'est très bien. Donc, c'est ouvert. D'ailleurs, Internet et le web fonctionnent sur des logiciels libres à tous les niveaux. Au point qu'on dit, sous forme de boutade, que si vous utilisez Google, vous êtes en fait utilisateur de Linux. Puisque, effectivement, les serveurs de Google, c'est du Linux. Évidemment, les navigateurs, il y en a la plupart maintenant, sont libres. Mozilla en tête, suivi par Chrome et Safari. Donc oui, c'est libre, mais finalement, on est en train de, comme vous le suggérez de façon très intéressante, on est en train de le refermer. C'est-à-dire que les utilisateurs, sans s'en rendre compte, sont en train de mettre toutes leurs données dans des silos, typiquement Facebook, qui n'a rien de libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les donnez à Facebook, eh ben, vos informations, elles sont enfermées, vous n'avez pas le contrôle, le logiciel n'est pas libre, vous ne pouvez pas faire tourner votre propre version de Facebook chez vous, vous n'avez pas la possibilité de le modifier. Donc là, on est en train de se diriger, à mon grand regret, vers un modèle totalement fermé, qui est celui des réseaux sociaux propriétaires. Et ça, c'est très inquiétant, parce que ce sont eux qui sont en train de contrôler les relations qu'on a avec nos amis, nos proches et autres. Ils contrôlent notre carnet d'adresses et finalement on peut se retrouver, si c'est très possible, on peut se retrouver enfermé en dehors de sa propre vie numérique. Il suffit que Facebook ferme votre compte et là vous avez perdu vos contacts, vos amis, vos relations, votre messagerie, vos photos, vos vidéos et tout ce qui a été échangé par le passé.
Bon, c'est vrai des réseaux sociaux, c'est vrai aussi de la mobilité. Si on choisit des plateformes type Apple, on est enfermé dans un modèle. On s'enferme volontairement. On n'est pas enfermé, on s'enferme volontairement. C'est ça qui est intéressant.
On ne réalise pas qu'on franchit la porte et qu'elle se ferme derrière vous.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, effectivement, le web est-il libre? Oui, je pense qu'il est libre dans sa maturité, dans sa structuration technologique. Ses composants, et c'est grâce au libre quand même qu'il a connu ce fabuleux exor, ou c'est le libre a connu aussi un fabuleux effort parce qu'il y a l'essor
c'est complètement symbiotique.
C'est tellement intégré les uns par rapport. Par contre, ce qui est toujours important, c'est de voir c'est l'esprit de la lettre en fait. Ce qui me paraît important, c'est ce qu'on fait d'un outil comme le web. Le web, il peut être libre, mais ce qu'on en fait, effectivement, il peut y avoir des modèles qui sont issus de cette révolution quand même Internet depuis 15 ans. Qui il y a 10 ans pensait que Facebook serait peut-être un des principaux acteurs qui, même au niveau de la messagerie, va s'imposer. Donc c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, ce que je vois, la liberté, c'est quand même la liberté de créer qui est offerte parce que la technologie le permet. Et en ce sens-là, le web est encore libre. Il permet de générer de nouveaux modèles, de générer de nouveaux business models auxquels on ne pensait pas il y a 5 ans ou 10 ans et qui émergent.
Libre au sens espace de liberté.
Libre au sens espace de liberté. D'ailleurs, on le voit aussi socialement et dans le monde politique. On voit que le web est comme un vecteur de liberté, notamment par les temps qui courent, dans certaines révolutions. Et on voit que c'est vraiment, à ce titre-là, même s'il y a des dérivés propriétaires ou qui enferment les gens, il est quand même un espace de liberté qui est colossal.
Oui, parce qu'on peut créer sans demander l'autorisation. Alors vous avez une idée, que ça soit commercial ou non commercial, vous pouvez créer une structure qui va implémenter cette idée sur le web. Vous pouvez acheter un nom de domaine qui est, dont le prix est purement symbolique, et ça y est, vous êtes, vous pouvez jouer dans la cour des grands. Vous n'avez pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. À l'inverse d'un, d'un écosystème façon Apple, où là, si vous avez une idée, eh bien vous, vous êtes obligé de passer par l'App Store d'Apple, qui a un droit de veto, donc de vie ou de mort, sur, sur votre idée. À ce titre-là, le web est considérablement plus ouvert que les écosystèmes façon Apple, iPhone, iPad. Mais néanmoins, on est de plus en plus sous l'influence de gens comme, comme Facebook, qui détiennent énormément d'informations sur les utilisateurs. Et en fait, pour avoir accès à ces données, il faut passer sous les fourches codines de Facebook.
Mais juste pour rebondir sur ce que dit Tristan, c'est que on voit bien que si l'infrastructure demeure majoritairement à composants libres, c'est un garanti quand même que le web peut encore rester dans une logique libre.
Moi, je trouve qu'on peut se poser
Apple,
la question.
Parce que Apple, c'est pas, dès le départ, c'est une logique propriétaire. Donc,
oui, mais Facebook, Facebook est certainement utilisateur de tas de solutions libres pour construire son service extrêmement fermé.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc le libre, finalement, ne se défend pas lui-même, et le libre permet de créer des solutions fermées. Est-ce que c'est pas un petit peu l'extrême de ce que vous souhaitiez au départ,
hein? Ah, mais de toute façon, quand vous faites du libre, il y a une acceptation au départ que vous donnez du code à la communauté et vous acceptez la liberté des autres, c'est-à-dire que vous acceptez que les gens y fassent ce qu'ils veulent avec ce code, même si ça consiste à enfermer des utilisateurs. Après, il faut se débrouiller pour faire mieux et offrir mieux aux utilisateurs. C'est exactement ce qu'on fait chez Mozilla. Nous, on est à but non lucratif et on fait du libre, et de façon, enfin, notre vocation, notre mission, c'est d'empêcher que les gens soit enfermé. On voit par exemple qu'il y a des app stores donnés par exemple par Apple qui enferment les gens. Ensuite, Google fait un app store pour le web, mais il ne marche que dans Chrome, ce qui est une aberration. Si une application web, que si elle marche dans Chrome, il y a toutes les chances qu'elle puisse fonctionner dans Firefox. Et donc, nous, on est en train de faire un système d'app store ouvert qui reprend les meilleurs principes des App Store, à savoir ça permet de découvrir des applications, ça permet d'acheter des applications, mais on n'est pas enfermé ni sur un type de navigateur particulier, ni sur un type de paiement, ni sur une centralisation. C'est-à-dire qu'une même application pourrait être vendue par un App Store, qui pourrait par exemple être opéré par Amazon, parce que c'est des gens qui ont un profil à animer un Open Web App Store, mais vous pourriez, vous, si vous êtes éditeur d'applications web, le vendre vous-même, et puis un site communautaire de jeux pourrait vendre aussi la même application. C'est ce genre d'approche qu'on a, de faire des solutions technologiques ouvertes qui favorisent l'ouverture derrière. C'est pour ça qu'on existe chez Mozilla.
Oui, d'ailleurs, même en entreprise, je ne crois pas qu'il y ait maintenant un DSI ou un directeur marketing dans un grand groupe qui ne regarde pas pour faire son intranet, mais même son RSE, son site. Il va naturellement, quasiment naturellement, la solution libre. Ça paraît même culturellement établi. Regarder une solution d'un éditeur propriétaire comme Microsoft ou autre pour aller sur de l'internet ou du web dans l'entreprise, ça paraît complètement.
Ouais, je suis quand même encore un petit peu sceptique, parce que quand on regarde les chiffres d'affaires de ces gens-là, ils arrivent quand même à en placer quelques centaines de millions par an. Donc.
Oui, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai quand même l'impression que culturellement, le web est tellement associé à ce concept de liberté que ça paraît difficile pour développer un système d'information qui reposerait sur du web de s'enfermer dans une logique propriétaire. Ça me paraît, on est au niveau du culturel.
J'ai l'impression quand même que ce sujet du web est-il libre, c'est un sujet qui est plus lié à la plateforme, qui est lié un peu à des spécialistes qui se parlent entre eux comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Le grand public, lui, finalement, il ne se sent pas concerné par ça. On va lui dire c'est gratuit ou on va lui dire c'est payant, mais on ne va pas lui dire c'est ouvert ou c'est fermé. Et finalement, on s'en rend compte, et Facebook est un bon exemple, les plateformes Apple, etc. L'utilisateur s'auto-enferme en validant des conditions générales qu'il ne lit pas. Et même s'il les lisait, de toute façon, si c'est gratuit, il a envie d'y aller. Est-ce qu'on manque pas aujourd'hui d'un vrai, une vraie éducation de l'utilisateur de ce point de vue-là?
On a quand même avec nous le contre-exemple. Mozilla, c'est quand même l'utilisateur qui l'a, entre guillemets, plébiscité. Donc,
Oui. Mais malheureusement, on est une exception. On est le contre-exemple. Mmh. On a, j'espère qu'on va faire tâche d'huile et qu'on va réussir à faire comprendre aux gens ce que c'est que la liberté et pourquoi c'est vraiment important aujourd'hui. Et aussi qu'on va avoir une influence sur nos concurrents.
Oui.
C'est-à-dire que il y a ce problème de la gratuité que vous soulevez qui est très très important, en ce sens qu'aujourd'hui la gratuité, souvent, pas toujours mais très souvent, c'est on paye pas avec de l'argent mais on paye avec de l'information privée. Et donc vos données privées, votre vie personnelle est devenue une monnaie sur laquelle il n'y a pas de tarif, il n'y a pas d'étiquette, et c'est tout expliqué dans les conditions générales de vente, et effectivement c'est totalement illisible, enfin beaucoup moins qu'un billet de banque.
Et le grand public n'a pas conscience que ses propres données sont de la monnaie et ont une valeur.
La prise de conscience se fait, mais elle va se faire...
Quand il les perd, oui.
Oui, quand il les perd.
Quand il les perd, il en prend conscience. Quand on lui vole, il en prend conscience.
Oui, mais ça va prendre du temps. Il va falloir qu'il y ait suffisamment de personnes.
Qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la compréhension par Madame Michu du fait que si Facebook est gratuit et si Facebook est un synonyme de liberté parce que ça a aidé certaines révolutions, c'est pour autant un synonyme aussi d'enfermement de données propriétaires.
Mais je crois que la force des propriétaires depuis tout le temps, notamment des gens comme Apple, mais Facebook, c'est le marketing.
Oui.
Et je pense que un
c'est ce qui points, manque à la communauté libre.
Je pense que c'est ce qui manque un petit peu à la communauté, sauf quelques exceptions.
Mais on en a qu'un, Tristan.
Voilà, c'est ça, il n'y en a qu'un.
Il ne s'est pas cloné.
Et globalement, sur le secteur, hormis Red Hat et Mozilla, il y a très peu d'acteurs qui ont une puissance capable de faire du marketing qui fasse qu'effectivement, la puissance de marketing de Apple est sans... Ça joue sur le comportement.
Et encore, il faut relativiser, hein, parce que là, Google fait un marketing pour faire la promotion de Chrome. C'est simple, ils dépensent plus en marketing que sur l'Europe, ce que nous on gagne en une année sur le monde, hein, chez Mozilla. Donc eux, ils parlent pas du tout d'open source, ils parlent de rapidité.
Ouais.
Donc du marketing, y en a, mais c'est bien parce que derrière, il y a des données personnelles à gagner.
Donc,
quoi.
En conclusion, le web, il est encore libre, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant.
Il faut être vigilant, et je pense que le combat, il se gagne au niveau de l'infrastructure. Je reviens dessus. Je pense que tant qu'on aura des garanties sur un certain nombre de choses au niveau de l'infrastructure qui préétablit l'ossature du web.
Typiquement, la neutralité du net, filigrane de ce que vous dites.
Et je crois que ça, c'est le point sur lequel il y a le combat à faire. Parce que, de toute façon, on est dans un système mondialisé, libre, où l'initiative, le web, c'est un fabuleux facilitateur de projets, création de projets. Il ne faut pas perdre ça. Mais ce qu'il faut garantir derrière, c'est que cette ossature, cette infrastructure, cette épine dorsale, elle soit tout le temps quand même avec des composants libres, ou en tout cas qu'il y ait des garanties d'ouverture par rapport à ça.
Et on peut aussi imaginer, et Mozilla y travaille, développer des nouvelles couches dans l'infrastructure, typiquement l'identité. Actuellement, on est dans une approche où l'identité elle est gérée par Facebook ou éventuellement par Twitter. Ce qu'il faudrait, c'est des systèmes interopérables, décentralisés, que chacun puisse opérer pour assurer le service d'identité des gens. Parce que là, un service propriétaire centralisé, c'est exactement le contraire de la liberté et de l'ouverture.
Et pour ça, il faudra combattre aussi pour que les utilisateurs, ceux qui nous regardent et qui éventuellement découvrent ces sujets, comprennent qu'il faut faire très attention et que gratuité ne veut pas dire liberté et qu'il ne faut pas confondre tous ces sujets-là.
Et oui, comme on vous le dit très régulièrement sur nos ondes, libre ne veut pas forcément dire gratuit. Il nous reste quelques poignées de secondes pour faire un petit tour par l'agenda du libre qui vous propose sur agendadulibre.org tous les rendez-vous qui se passent en France ou dans la semaine il y aura des rendez-vous un petit peu partout. Vous pourrez vous en rendre compte sur le site, que ce soit Anglais, Bordeaux, Pessac, Sainte-Vallière, Poitiers ou ailleurs. À noter tout de même, dans notre région, il y aura un rendez-vous assez intéressant. Ce sera le 26 mai 2011 à Montpellier, la première journée montpelliéraine de la sécurité des systèmes d'information, et c'est quelqu'un qu'on connaît assez bien sur Divergence Numérique puisque c'est Éric Bullier qui qui s'occupait de la sécurité informatique de l'école d'infanterie, l'EAI à Montpellier, un pro de IP table et autres solutions de sécurité informatique qui viendra nous en parler la semaine prochaine. En tout cas, ça aura lieu donc ce 26 mai 2011. Plus d'informations sur jssi-montpellier.org, jssi-montpellier.org. Si vous êtes un petit peu plus loin, par exemple en Belgique, eh bien, vous pourrez aller à Braine-l'Alleud pour une Ubuntu Install Party où ça sera le 20 et ou le 21 mai à Boussumons pour un atelier autour d'Audacity, le couteau suisse de la musique libre. Et puis le 31, il y aura sécuriser votre SI avec une solution open source. Ce sera à Bruxelles, agendadulibre.be pour tout ce qui se passe en Belgique, évidemment. Pour ce qui concerne nos amis du Québec qui nous écoutent régulièrement sur la Voix du Libre, eh bien, c'est toujours le Libre Graphics Meeting qui se termine demain à Montréal. Il y aura un festival d'installation Linux ce 14. Et puis la Voix du Libre en live le 17 à ne pas rater. Et puis divers rendez-vous que vous pouvez trouver sur agendadulibre.qc.ca. On rappelle à nos auditeurs que Divergence Numérique est aussi diffusée sur Radio Escapade dans l'Hérault en France sur le 103.3 MHz et puis aussi sur CKIA à Québec, que l'on salue bien, nos amis de la Voix du Libre qui émettent sur 88.3 MHz. C'est ainsi que se referme cette 109e Divergence Numérique. On vous dit à la semaine prochaine en vous souhaitant une soirée bien libre et bien militante. Bonjour chez vous. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks.